Every fashion designer wants to create an illusion, create things that disturb, fascinate people.
Ah, ils vont se multiplier!
Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le dos.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
L'enfant terrible de la mode, le hooligan de la couture, autant d'expressions réductrices pour définir ce visionnaire inspiré et tourmenté qui a transformé les podiums en théâtre et les défilés en spectacles flamboyants. Alexander McQueen sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Comment un jeune homme timide issu de la classe ouvrière est devenu un génie de la mode? Comment raconter ce parcours sans tomber dans les pièges du biopic? Eh bien, comme une tragédie en 5 actes, jusqu'à la mort inéluctable du héros, son suicide. Bonjour Peter Etelgui.
Bonjour.
Réalisateur avec Yann Bonnaut de ce film McQueen en 5 chapitres, accroché à 5 défilés, de Jack l'Éventreur à l'Atlantide de Platon, dans le crâne tourmenté de McQueen, à travers témoignages d'amis, collaborateurs, famille et des documents rares qui mélangent sa vie à ses créations. Elle a passé 13 années intenses à saisir en images la vie de cet homme et la profondeur de son œuvre. Bonjour Anne Rey.
Bonjour.
40 000 photos argentiques sur McQueen et prises dans une liberté totale, dont 169, c'est précis, d'entre elles, exposées à Arles l'an dernier et réunies dans ce livre, Les Inachevés, chez Arts Cinéma. Pas de limite non plus pour vos créations. Bonjour Nicolas Durnjac.
Bonjour.
Coiffeur de mode et pour McQueen, 3 mots-clés dans votre travail avec lui. Créativité, extravagance, spectacle. McQueen, le film sur les écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de ce mercredi, dominées par une grande aventure en 6 épisodes, 6 genres, 14 heures de cinéma. La Flore, c'est parti.
When he left school, he wasn't sure what he wanted to do. He was out of work, looking for work, I should say, because my husband's very strict on the children going out to work. We was watching a television program one evening, and they were saying that they couldn't get apprentices to work in Savile Row. So I just said to him, why don't you go and try? So I said, just knock on the door. They can only always say yes or no, you know. And that's exactly what he done.
Ils regardaient l'émission à la télévision un soir et ils expliquaient qu'il manquait d'apprentis pour travailler à Savile Row. Je lui ai dit qu'il devrait tenter le coup. Frappe à la porte, ce sera oui ou non. Et c'est ce qu'il a fait. Conseil d'une mère, le personnage central, le pivot de la vie d'Alexander McQueen, mère héroïne de 6 enfants dont il était le cadet et qu'il a toujours soutenu contre un père un peu plus autoritaire, chauffeur de taxi, enfance à Stratford, quartier populaire de l'Est de Londres, qu'il n'oubliera jamais, Peter.
Oui, non.
Très important, c'était
très important. Elle a raconté des histoires au jeune Lee au sujet de l'histoire de l'Est de Londres, Jacques l'Éventreur.
C'est ça, mais oui,
et aussi de son ancêtre de l'Écosse.
Oui, ancêtre
écossais. Et voilà. Et c'était un personnage très important parce qu'elle a vraiment nourri son imagination, je pense.
Il y a peu de documents avec elle, hein.
Très peu de documents,
ouais.
Mais on a trouvé quelques entrevues avec elle pour le film, qui étaient vraiment magnifiques et c'est vraiment impressionnant comment elle était une dame très 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 forte.
Je crois qu'on peut dire, pour marquer l'importance, que il s'est suicidé le jour de l'enterrement de sa mère.
La veille, oui, même, pour ça. Ne pas y assister. Veille,
c'est
oui.
Ça. Donc c'est quand même, ça marque les choses, quoi, de oui. façon dramatique.
Oui. Je pense que Anne et Nicolas peuvent dire aussi, mais je pense que il était vraiment inspiré par elle et il voulait montrer son art à elle. Donc le moment de sa disparition,
il y avait la suite.
Exactement. Oui.
D'ailleurs, les femmes sont très importantes. Anne Rey, dans votre livre, vous citez ce texte de Alexander McQueen. Je dessine des vêtements car je ne veux pas que les femmes aient l'air innocentes et naïves. Je n'aime pas qu'on prenne avantage des femmes. J'aime que les hommes soient stupéfaits par l'entrée d'une femme. Je sais ce que c'est que la misogynie. Je veux donner du pouvoir aux femmes. très important.
Oui, ça fait plaisir d'entendre ces mots, en
ben
fait.
Oui, c'est vraiment encore plus maintenant.
Oui, Lee était entouré de beaucoup de femmes.
Oui.
Donc c'est vrai dans sa famille, il y a sa mère dont on vient de parler qui était essentielle.
Sa sœur Janet.
Sa sœur Janet.
Sa
sœur Jackie. Voilà, ses collaboratrices. Ellie était quelqu'un de très fidèle, donc ça n'a jamais changé. Sarah Burton, qui aujourd'hui dessine pour la marque. Amy Whitton, qui était à la presse.
Oui.
Moi, j'étais aux images. Enfin, voilà, les stylistes qui étaient là. Beaucoup de femmes autour de lui. Et il avait un amour des femmes, tout simplement, qui était évident si on regardait son travail. Puisque le monde ou le monde de la mode a parfois la mémoire courte. Il y a eu des articles qui étaient très durs à la fin des années 90, qui le taxaient souvent de misogynie. Donc il y avait vraiment une incompréhension de son travail. Quand on regarde tous ses vêtements, très souvent on s'aperçoit que c'est une protection pour les femmes. Mais c'est très physique, c'est un col qui monte et qui protège le visage.
Une armure.
C'est un corset qui est une armure, exactement.
Ouais. Les épaules.
Les épaules, voilà. Et après, dans le travail de Nicolas, il y avait aussi toute cette magnificence des femmes qui devenaient des créatures encore plus puissantes et qui allaient aussi dans le même sens.
Nicolas Jean-Jacques, puissance des femmes.
Puissance des femmes, oui. Puissance 100, 2000, 3000, 100 000, 1 million. Je dirais que, en ce qui concerne Alexander, comparativement à d'autres designers,
oui,
l'approche de la femme était très, très, très particulière. C'est-à-dire qu'il ne les souhaitait et ne les voulait pas faibles. Lors de ses castings, c'était un type de femme qu'il recherchait. Et il a véhiculé, en fait, toute une lignée de mannequins qui, à l'époque, étaient assez inconnus et qui sont devenus, chez d'autres designers, et pas seulement lui-même, sont devenus des phares, un peu, des collections. Et je dirais que moi, j'avais pour consigne toujours les mêmes mots-clés qu'il me donnait. Il dessinait pas de coiffure, il ne nous proposait pas de style particulier. Il me laissait interpréter, mais il me disait, elle est forte. Elle doit être unique. C'est la seule. C'est la seule. Mais le pire de tout pour un coiffeur, lors de Fashion Week comme ça, comme moi, pour la couture ou le prêt-à-pa, c'était que toutes devaient être différentes. Toutes. Des déesses uniques. Et pour Alexander McQueen, ce qui se passait sur la tête, là-haut, au-dessus, devait être un peu le résumé d'une personnalité. Je devais mettre tous les codes un petit peu pour résumer un petit peu ce qu'il envoyait sur le podium. C'était extrêmement difficile à approcher parce qu'il travaillait très old style, techniquement, réinterprété dans une modernité absolue, etc. Oui. Je ne suis même pas sûr qu'on verra un autre McQueen dans l'histoire de la mode parce que c'était un geyser de spontanéité, d'émotion en live sur le moment. C'était pas de la stratégie commerciale ou etc. Donc en fait c'était assez difficile pour nous parce qu'il fallait interpréter chaque personnage et la révéler à la McQueen.
Le passé atypique donc qui est devenu un atout, Peter et Ted Guy, c'est-à-dire que ce passé sans connexion avec personne de la mode, cette espèce de façon d'ignorer les règles, c'est ça qui l'a libéré aussi, McQueen.
Oui, oui, oui. Mais il était, comme vous avez dit, il commençait à Savile Row, donc c'était dans une maison très traditionnelle.
Oui.
Et il a vraiment pris son temps pour maîtriser chaque facette de la construction, disons.
Oui.
Et il a dit toujours après, moi, je veux garder la tradition, mais je veux casser toutes les règles.
Oui.
Et j'adore ça.
La mode est une grosse bulle que j'ai parfois envie de faire éclater.
Ah, oui.
Preuve avec cette première collection, Jack l'Éventreur traque ses victimes. Projet de fin d'études à la Centrale St. Martins, prestigieuse école. On écoute. Les tenues défilaient et ces mouvements étaient inédits. Je les voulais. Elles étaient modernes et classiques à la fois. Un manteau noir, il le doublait avec des cheveux. Il était rouge sang à l'intérieur, comme un corps de la chair et du sang. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Entre sabotage et tradition, l'alliance parfaite, beauté, violence, tout ce que j'imagine les années 90 représente. Ça, on vient d'entendre, mal doublé, une autre femme très importante de la vie de McQueen, c'est Isabelle Blow. Ici, c'est une femme qui, dès qu'elle a vu ce premier défilé, a tout acheté
Peter c'est Tolkien. Elle travaillait chez Vogue à New York d'abord, et elle a fait entrer l'art dans la mode. Mmh. Elle a amené Basquiat et Warhol dans le monde de la mode. Et après, elle a découvert McQueen à Londres. Elle était absolument bouleversée par sa collection débutante. Et après, ils se sont devenus très amis. Elle avait une influence sur lui. Elle lui a montré l'art et ce qui est avant-garde dans l'art. Et c'était une relation très proche.
Déjà dès ce premier défilé, on peut le dire, on le voit dans vos images, le sens du spectacle, des vêtements gothiques, sombres, beaucoup d'influences d'ailleurs qui sont reprises dans votre livre, Anne Rey. Il y a notamment les films d'horreur, il y a Edgar Allan Poe, il y a Francis Bacon, très sombre tout ça. Il vous en parlait de ces influences, McQueen ?
Non, en fait, il me donnait carte blanche, donc ça c'était très clair, mais je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure et en écoutant cette musique aussi. Et dans votre présentation, la musique de Michael Nyman, qui était important pour Lee, McQueen, il écoutait beaucoup Michael. Il y avait une unicité, en fait. Ce que vous avez décrit, vous avez parlé de théâtre, c'est-à-dire que c'était comme une performance artistique qui était unique. De la même façon que les pièces de cheveux étaient uniques, l'instant était vraiment particulier. Les femmes étaient choisies pour leur caractère et leur personnalité. Donc, en fait, il faut vraiment imaginer, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, que Lee McQueen était comme un réalisateur qui choisissait ses actrices pour interpréter un propos.
Oui.
Lui, il avait des choses à exprimer, et ça, on le voit très bien dans le film, et c'est pas facile de comprendre ça. On n'a plus du tout l'impression d'assister à un défilé de mode. Le vocabulaire est drôle, un catwalk, c'est normalement un chemin tout droit de défilé.
Oui.
Il n'y en a pas chez McQueen. Vous avez un cercle de feu qui flambe pour le défilé Jeanne d'Arc, vous avez des créatures avec des grandes caméras pour Atlantis, vous avez quelque chose de très de très brut, de très terrien.
Mais tous les éléments, quoi. Feu, air, eau et terre, oui.
Vous avez tout compris. Ouais. Il a utilisé les cinq éléments et ça ressemblait vraiment à des performances artistiques. Et par rapport à ça, donc dans la façon dont je travaillais, j'arrivais à avoir quelques informations, très peu, sur le défilé avant de venir. En fait, j'arrivais très tôt et j'étais comme une page blanche et je ressentais tout. Et je ressentais aussi l'urgence d'inscrire ça. J'ai jamais eu l'impression d'assister à un défilé de mode. J'ai toujours eu l'impression d'assister à des créations artistiques. Et ça, je l'ai retrouvé dans le film de Yann Epitard.
Avec cette scène extraordinaire où deux robots de peinture automobile peignent en direct une robe, ce qui en fait une création absolument originale. Et au fond, on voit McQueen rire comme un enfant. C'est-à-dire qu'il est dans son bonheur absolu de création immédiate.
Absolument. Et on a vu ça dans les rushs. Et nous nous sommes disant, alors, ça c'est Lee, non? Et on a zoomé, oui, sur l'image, et on l'a découvert comme ça. Il était absolument, c'était quelque chose incroyable, ça.
Un mélange d'enfance et aussi un côté très sombre. D'où ça venait, selon vous, ce côté très sombre chez McQueen?
Donc, il a témoigné l'harcèlement de sa sœur,
oui,
et il a expérimenté un harcèlement sexuel lui-même. Donc je pense que à l'intérieur il y avait toujours ce sens. Ça a généré un peu le sens de ténèbres dans son travail. Mais il faut aussi insister que c'est un homme. C'est très facile de mettre une légende de tragédie, de ténèbres. Mais il y a un côté d'humour, de légèreté, de tendresse, oui, chez Lee. Et on a voulu vraiment équilibrer les deux côtés dans le film.
Pourquoi faire un film sur lui, finalement? Non, mais c'est vrai.
Parce que c'était c'était un homme qui nous a inspiré beaucoup.
Nous, les Anglais, vous voulez dire, ou nous, parce qu'il y a eu une Swinging London en 60, et après il y a
eu après 90,
oui,
ça renouvelait un peu.
Il a changé Londres, il a changé l'ambiance.
Vraiment changé Londres. On peut dire que le East End de Londres contemporain,
oui,
ça a commencé avec lui. C'était un artiste qui était un peu c'était bien sûr c'était un homme de mode, mais c'était aussi un homme de Londres, de tous les arts contemporains. Si on habitait Londres à cette époque-là, on peut pas éviter McQueen. Il était tout, partout. Pas juste dans la mode.
C'est parce qu'il était très anglais qu'il s'est pas finalement si bien adapté que ça à Paris chez Givenchy.
Ah oui, mais il est resté toujours fidèle à Londres. Et quand il est venu en France, à Paris,
les documents sont exceptionnels. Et on voit l'arrivée en taxi avec Sébastien, un de ses collaborateurs,
et la
bande. C'est les punks qui arrivent.
C'était les punks de Londres qui.
Ouais.
Et je pense que c'est vrai de dire que Anne et Nicolas, c'était les seuls Français
dans la bande.
Oui.
Les seuls acceptés.
Absolument. Et vous savez, dans le fashion world, un Français coiffeur à Londres faire la collection d'Alexander McQueen, moi je m'attendais à être dead or alive par le Times ou BBC, anytime. Enfin, je m'attendais à ce que ça s'arrête court. Et puis Alexander m'a dit non, mais on va attaquer Givenchy, il faut que tu sois là.
Faire un hold-up.
Et quand je dis attaquer, oui, c'est le mot choisi. C'est bon. Parce que 3 mois avant son entrée chez Givenchy, la presse en France et les journalistes avaient quand même été extrêmement rugueux avec lui. Il n'était pas, il n'arrivait pas chez Givenchy pour être sacralisé et il était plus daudé mort ou vif. Et on savait tous, Anne comme moi-même en tant que Français, que ça cassait, on ferait partie des bagages. C'est-à-dire que pour nous, c'était terminé.
D'ailleurs, chez Givenchy, il rencontre des sacrés personnages, dont Catherine de Londres, on la voit témoigner dans votre film. On écoute ce petit extrait entre McQueen et elle. Il ne parle pas français, elle ne parle pas anglais.
Mais il y a des jupes là.
Yeah, it's okay.
Il y a jupes.
Oh, jupes.
Oh. Des petites jupes.
Hein? Oh, it's okay. I thought it was pantalon.
J'ai très peur quand il prend les ciseaux. Ça, c'est... Quand je le vois avec les ciseaux, parce qu'il m'a déjà coupé des choses. Il m'a déjà coupé un pantalon, une combinaison pantalon. Il me l'a coupé en body. Alors maintenant, quand je le vois avec les ciseaux, j'ai très, très peur.
C'est très drôle chez Givenchy. D'ailleurs, il découvre qu'il y a une cantine en bas. Il y va parce qu'il a faim et il s'aperçoit que... Mais c'est Galliano qui l'a précédé, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Et Galliano est parti pour Dior. Et à ce moment-là, Monsieur Arnault a fait venir McQueen à Givenchy.
Il y a pas mal de points communs entre les deux. Bon, Galliano est plus vieux, mais ils ont fait la même école et ils sont tous les deux très excentriques. Et ils ont eu, bon, l'autre c'était auto-brûlé Galliano. Et il y a des points communs entre ces deux. D'ailleurs, ils ont fait l'objet d'un livre tous les deux.
Oui, c'est ça, le livre de Dana Thomas.
Exactement.
Mais moi, je trouve qu'il y a une grande différence entre... Mmh. Je pense que Galliano, c'est un génie, bien sûr, mais pour moi, c'était plus un homme de la mode. Et je pense que McQueen était toujours un peu à part, toujours un étranger dans ce monde, n'est-ce pas ?
André.
Oui, c'est vrai, il l'a toujours dit, fashion is crap, c'est quelque chose qu'il disait très souvent,
la mode
c'est du vent, la mode c'est du vide,
ouais.
Et donc il le disait, c'était un artiste, je pense que pour les gens qu'il côtoyait, et la manière dont vous avez fait le film avec Ian Peters, vous l'avez aussi présenté comme un artiste en tant que tel. Et John, j'ai un tout petit peu travaillé avec lui, plus fragile aussi dans le caractère, il était quelqu'un de fort. Sans doute à cause de toutes ces fêlures qu'on a évoquées.
Timide mais fort.
Timide, sauvage, mais très fort.
Nicolas, John Jack.
Oui, moi j'ai aussi travaillé avec John Galliano en collection, comme chef de cabine, et avec Alexander donc. L'approche de la femme était radicalement différente. John aurait préféré le boudoir, Alexander aurait préféré un parking.
Mais oui, bien sûr, c'est pas mal.
La différence d'approche, c'est que John aurait suivi... Enfin, pour moi, John Galliano est une sommité. Il n'est pas moins que Carl, qu'Alexander. À sa façon, c'est un mec génial. Et John était plutôt dans une approche de la femme presque maniérée, je peux dire.
Ouais.
Alexander McQueen souhaitait la bienvenue aux erreurs. C'est-à-dire qu'à la limite, avant un show, si je préparais une pièce pour Kate Moss, et qu'au dernier moment, mais une minute avant le show, il me disait, oh finalement, tu sais quoi? mais la sœur Stella Tennant. Et je disais, mais c'est pas possible, elle est blonde, ça va pas le faire. On s'en fout, elle a les racines noires, ça va faire du tie and dye, c'est encore plus raw, c'est encore plus brut, encore plus violent. Switch-les. Et bon, mais on switchait. Et c'était une part de... Chez Alexander McQueen, il y avait une spontanéité en live constamment, potentiellement, qui pouvait arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde. Donc, on était toujours prêts à switcher, à aller dans un extrême.
Vous avez jamais retrouvé ça depuis ?
Non. Non, parce que je pense que ce qui faisait la personne d'Alexander McQueen, c'était ce DNA de souffrance, de violence, le East London. Puis en même temps, quand vous avez 25 ans ou 27 ans, vous arrivez chez Givenchy, on vous souhaite pas la bienvenue, on veut pas que vous réussissiez, vous vous battez contre l'establishment, vous avez tout l'establishment contre vous. Tout l'establishment, et que vous sortez et que vous êtes en Adidas 3 bandes avec des Reebok, que vous n'êtes pas un dandy,
oui.
Que vous n'êtes pas super bronzé, que vous n'avez pas une Jagger-Lecoultre, et que vous n'êtes pas tout ça, je veux dire, on ne vous souhaite pas la bienvenue, on veut vous mort au vif. On veut vous mort au vif.
Sur les créations, c'était très animal, végétal, minéral. Comment il vous expliquait ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop internet pour envoyer des dessins, etc. C'était compliqué. Hein, de...
C'était terrible, parce qu'en plus, Alexander McQueen ne travaillait pas avec un mur blindé de photocopies, comme beaucoup de designers à l'époque faisaient. On vous donnait des sortes de mémoires à réfléchir, de 400 pages. Alexander McQueen avait quelques images sur un mur. Et il vous véhiculait le concept par des mots. Et vous disiez, non, mais là, elle peut pas être tarte. Fais-moi une guerrière. Tu sais, là, elle sort des marées. Elle vient d'aligner trois mecs avec des flèches. C'est sale, c'est cassé, c'est déstructuré. Par contre, celle-ci, elle est toute en or. Celle-ci, elle est précieuse. Celle-ci, elle est au Louvre, etc. Énormément végétal, énormément. Moi, je me souviens d'une coiffure sur le premier show Givenchy où, dans le backstage, il m'avait dit, tu ferais quoi? J'ai dit, ben, on va prendre de la paille et on va faire des chignons couture en paille. Avec de la paille. Et je me souviens que dans le backstage, une heure avant le show, que trois personnes en costard cravate déambulaient dans le backstage, étaient venues vers moi et m'avaient murmuré dans l'oreille, Monsieur Jean-Jacques, ça, non. Et j'avais dit, oui, mais je peux pas, ça va sur Jake Perfit, oui. Je peux pas la faire sortir avec un ponytail, avec une queue de cheval. Là, Alexander, ça passera jamais. Il dit, Monsieur Jean-Jacques, les chignons en paille, hors de question. Alors, j'avais été voir Alexander, j'avais dit à Alexander, je fais quoi là? Là, je reçois des... Là, je suis en train de me faire... Il y a des looks, on m'informe que je ne peux pas montrer. Et il m'avait répondu, bon, désolé pour l'audimat, hein. Fuck them up, fuck you, you do it.
Ouais.
Et on l'a fait.
Autre personnage très important dans ce film, c'est la musique, et c'est celle de Michael Nyman, qu'on va entendre là. Magnifique musique. Ils se sont connus tous les deux.
Très bien.
Peter et Edgy, oui.
Si, ils étaient très amis.
Oui.
Et même Michael a composé un morceau pour McQueen.
Oui.
Qui n'était jamais utilisé dans le show.
Oui.
Et,
ça rabonde pour lui.
Oui,
ça.
Absolument. Ouais. Et nous avons restauré ce morceau dans le film avec le show. Mais je trouve, ce qui était très intéressant, c'est que les deux hommes partagent un peu la même sensibilité. C'est-à-dire que Michael était vraiment élevé dans la musique classique. Il connaît toutes les traditions, mais il a un esprit très moderne.
Et puis la pression est arrivée, cette fameuse pression de la mode, 14 collections par an. Lui-même est tombé dans la drogue, l'alcool, les sautes d'humeur incontrôlables. Il a cédé 51% de son label à Gucci pour 50 millions de dollars, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
Et ça fait éclater le cerveau, quoi, je veux dire,
C'était un artiste, lui, mais c'est aussi un grand, grand, grand entrepreneur. Il a savé jouer avec la rivalité entre Gucci Group et LVMH pour faire en sorte que sa marque propre peut profiter et comment on dit, flourish.
Soit florissante.
Florissante, exactement.
Mais au sommet, il a un peu chassé ses amis, ses vieux amis, sa troupe.
Oui.
Il s'est trouvé un petit peu seul.
Il a coupé Shakespearean, hein, Laurent.
Je pense, c'est ça. C'était un peu une tragédie grecque. Et j'étais vraiment impressionné par quelque chose que Anne nous a dit quand nous avons nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle a dit, tu as dit, sa mort ressemble un peu à lui.
Sa mort lui ressemble, oui.
Oui, oui, c'est ça.
C'est-à-dire, Anne.
C'est-à-dire que c'est un choix. C'est une décision. Ouais. C'est pas quelqu'un qui prend trois médicaments pour appeler au secours et puis ça va aller mieux, on va continuer demain. Mmh. C'est quelqu'un qui dit, je m'arrête là. Alors le film, il sort le 13 mars, son anniversaire c'est le 17, donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont écrire cette phrase qui est très étrange pour moi, qui est « il aurait eu 50 ans ». Ben non, il s'est suicidé à 40 ans.
Ouais.
Ça n'a aucun sens, il n'est plus là. « Don't fight it, embrace it », ça veut dire « j'ai vécu à Londres à la fin des années 90 ». Ça veut dire « il faut accepter les choses à un moment donné ». Lee n'est plus là, c'était effectivement quelqu'un d'une créativité incroyable, mais sa mort lui ressemble parce qu'elle est... Elle est nette, c'est une cassure nette. Et ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à, au fait qu'il se soit... He took his own life, qu'il ait pris sa propre vie la veille des funérailles de sa mère. En effet, il ne souhaitait pas y assister. Mais en fait, bien sûr, il était ravagé par le chagrin, mais c'était aussi un verrou de sécurité, sa maman. Il n'aurait jamais fait ce geste, il n'aurait jamais imposé ça à sa mère. Mmh. Donc il faut aussi le voir comme ça, le lien entre les deux était tellement fusionnel et tellement important. C'était quelqu'un de très gentil, on l'a dit rapidement, j'ai envie de le dire à ce moment-là. Mmh. C'était quelqu'un qui, en dépit des millions de dollars et de tout, a toujours gardé les pieds sur terre. Je pense que c'est le cas quand on a des vraies fêlures, une enfance qui n'est pas forcément facile, dans un milieu plutôt modeste. Il a toujours gardé une grande lucidité sur les êtres, sur les choses. C'est quelqu'un qui lisait, hein. Il n'y avait pas de... qui lisait très bien les intentions des uns et des autres.
Oui.
Qui était très, très loyal et qui était très gentil et qui était très romantique et qui était très tendre.
Et puis sont arrivés les hommes d'affaires, un petit peu, hein, Peter et Ted Gee, c'est-à-dire qu'il fallait faire du profit. Je disais qu'à 14 collections. C'est peut-être un des derniers qui a vécu avant cette arrivée et cette mondialisation de la mode.
C'est ça, exactement. Et je pense que il a trouvé très difficile faire la transition entre une échelle un peu plus humaine pour sa marque et cette pression de globaliser tout, de faire un brand, de faire des parfums, des trainers et tout ça, c'était, je pense que c'était très difficile pour lui, mais quand même, il a mis la plus grande pression sur lui-même.
Et pas sur ses collaborateurs, Nicolas Jean-Jacques. Vous le sentiez, ça, ou pas?
Je pense qu'il était quand même très précis dans ses intentions par rapport aux coiffures, au maquillage, par exemple. C'est extrêmement précis. Je peux vous dire qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Il faisait confiance aux gens. En les lisant un peu comme Diane, il se faisait une idée de la personne, s'il y avait suffisamment de rébellion à l'intérieur de vous pour être sur les mêmes longueurs d'onde, s'il y avait assez de violence, s'il y avait assez de rejet de l'établishment. Je pense qu'au niveau des cheveux, ce dont il avait peur au début, dès qu'il m'a rencontré pour me dire « Est-ce que tu veux travailler pour moi ?» J'avais dit oui, et il m'avait dit « Je t'avertis, il est hors de question que tu me fasses du salon, du Alexandre de Paris, etc. Je veux pas ça de toi. Moi, ce que je veux de toi, c'est toute ta colère. » Je veux de l'unique, de la colère, de l'horlogerie suisse. Enfin, il disait ça, horlogerie suisse dans le sens où précis, les codes précis, la technique old style, béton, mais précis.
Tout cela est dans le film, ça s'appelle tout simplement McQueen.
C'est un très beau film.
Ouais, oui, très beau film, sort mercredi prochain. Vous restez bien sûr avec nous, Peter et Ted Gee, André, Nicolas, Dianjak. On se retrouve pour les sorties après ça.
The fashion world is in shock tonight over the news that Alexander McQueen has died.
Alexander McQueen, the darling of British fashion, has been found dead after a crash.
Alexander McQueen, 40 anni, è stato trovato morto, si dice impiccato nella propria casa.
Vicino ai pomici, tal come Marco Alexander McQueen, продолжит существование.
Tras la repentina morte del disegnatore di 40 anni, Alexander McQueen.
On a appris ce soir la mort du styliste britannique Alexander McQueen. Ce grand nom de la haute couture était âgé de 40 ans.
He used to say that a lot. One day, I'm gonna come home. Inside the body bag.
You don't know what I'm looking for.
It all started when you were year above. Before I had a favorite love. Before back when I adored, but now I'm fearing love. Before every other fell up, I was hearing love. Back when the day would fade to grey when you were clearing love. Cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep the evening clears, drowning in stark. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry last that I bust. Knowing you only went down to f- so what the fuck is up?
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. The sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crag upon you, then get tired of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? Closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it, now forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. Should've kept it clean. Can't forget the shit you seen. You should've kept it clean. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. You should've kept it clean. You should've kept it clean. You should've kept it clean. Not me.
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
You don't know what I'm looking for.
Et si on commençait ces sorties par le film le plus incroyable de la semaine, du mois, de l'année, La Flore partie 1 de l'Argentin Mariano Linas. Alors, chaque épisode correspond à un genre cinématographique. Le premier est une série B, le second un mélodrame musical, le troisième un film d'espionnage, le quatrième est une mise en abîme du cinéma, le cinquième revisite un vieux film français de Renoir, le sixième parle de femmes captives au 19e siècle, Montou donc La Flore, six épisodes, six genres, un seul point commun, leurs quatre comédiennes. Et le tout dure 14 heures, Laurent.
Et le tout est fabuleux. Le tout est une proposition de cinéma, comme on dit, extraordinaire, parce que vous avez très très bien décrit formellement le contenu, et en même temps, il y a beaucoup plus que bien ça sûr, encore. C'est une profusion. L'image de cette fleur donc, qu'on voit se développer, grandir comme ça, se ramifier réellement. Il y a une ramification cinématographique qui est extraordinaire, avec des choses... On en reparlera, parce que c'est un film qui va durer un mois, du coup. Enfin, il va sortir sur un mois.
Parce que là, donc, on peut voir que la première partie.
Voilà, on voit la partie 1, et puis ouais. On verra le 2, 3 dans les semaines qui viennent. Je trouve cette façon de faire très très à la fois très audacieuse. Il faut que les exploitants soutiennent cette façon de faire, et puis magnifique parce que c'est bien en propos du film, cette espèce de récurrence, cette série ciné et non pas télé pour une fois sur grand écran. Il faut vraiment la voir. On est pris pour des spectateurs actifs. On se laisse transporter, déboussoler, chahuter avec ces quatre actrices d'exception. C'est une façon à la fois de revisiter et l'histoire du cinéma et l'histoire de nos vies actuelles qui est sidérante de beauté et d'intelligence.
Mais alors il faut aussi attendre la fin pour revoir tout d'un seul coup, ça serait peut-être mieux.
Moi je rêve d'une projection de 14h non-stop un festival où on commencera à 7h le soir et on finira exténué à 9h du matin. Ça serait fabuleux.
Ça s'appelle La Flore, on en reparle
les
trois prochaines semaines d'ailleurs.
Oui, exactement.
Les étendues imaginaires du cinéaste singapourien Siu Wa Yeo. Léopard d'or au dernier festival de Locarno. La semaine dernière, nous évoquions Laurent Les Éternels du chinois Jiazhang Ge et son pouvoir de raconter un pays en même temps que l'âme de ses personnages. Ce talent de savoir mêler des destins individuels au collectif, on le retrouve dans ce film, Portrait de Singapour, cette folle ville qui chaque année gagne plusieurs mètres sur l'océan pour assouvir un rêve capitaliste, construire encore et encore. Elle importe pour cela des tonnes de sable des pays voisins, mais aussi de la main-d'œuvre de part et d'autre, parmi eux l'ouvrier Wang qui a disparu et sur lequel enquête l'inspecteur Locke. Le film va suivre leurs deux trajectoires, film noir, rêverie, mais aussi drame sociale, celui de ces ouvriers expatriés, insomniaques, entre deux vies, deux pays, à qui le cinéaste rend hommage à travers ces scènes de danse, de transe, pendant lesquelles toutes ces solitudes se retrouvent, des scènes terriblement émouvante. À propos d'émotions, Les Éternels est un film qui se ressent. Ne cherchez pas la logique, laissez-vous porter et vous aurez vraiment voyagé.
C'est drôle, vous venez de parler de Les Éternels, c'est les étendues imaginaires. Mais c'est bien parce que le cinéma asiatique nous donne là en 15 jours deux merveilleuses nouvelles de cinéma. C'est-à-dire c'est vraiment du cinéma, on est plongé dans ces imaginaires étendus parce que effectivement comme vous le disiez, Singapour fait cette folie qui est de réinventer en permanence ses frontières en important du sable de l'étranger. Ouais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fou. Et avec ces ouvriers immigrés qui somnambulisent comme ça, la nuit, le jour, c'est vraiment un univers merveilleux, magique, avec une propension à faire de belles images, mais au bon sens du terme, qui est tout à fait intéressante.
Damien veut changer le monde, de Xavier de Choudens. Alors, Damien est pion dans une école primaire, mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves, Bazad, et sa mère d'une expulsion du territoire imminente, Damien, aidé de sa sœur Mélanie, qui est une avocate d'affaires, et son meilleur ami Rudy et une bande de potes improbables, vont essayer de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi.
Oui, alors bon, c'est embêtant
de dire... C'est pas mal de me faire une comédie de ce sujet-là,
mais oui,
quand même.
Mais c'est embêtant de dire un peu de mal d'une fiction bienveillante de gauche. Bien sûr qu'on est du côté des immigrés, bien sûr qu'on aimerait tous en adopter un, parce que c'est ça le truc, c'est on nous dit, mais voilà, la solution, c'est adopte ton petit réfugié. Bon, il y a un moment où, même en fiction, on en parlera un autre moment, mais dans le grand débat, mais quand même, c'est-à-dire que trop de naïveté finit par tuer la naïveté, trop de bonne conscience finit par tuer la bonne conscience, et on en arrive à un scénario plein de clichés, plein de choses bienveillantes, mais ça ne fait pas un film, parce qu'il y manque certainement la complexité, il y manque le regard un peu décalé parfois qui pourrait arrêter de nous culpabiliser en permanence pour essayer de trouver des solutions effectivement viables. Voilà.
Damien veut changer le monde avec Franck Gastambide et Mélissa Sauzanne, on l'avait vu dans Winter Sleep de Bill Gottschalk et dans la série Le Bureau des Légendes.
Le casting n'est absolument pas en cause.
Très bien. Nos vies formidables de Fabienne Godet. Margot va rejoindre en pleine campagne ce centre qui soigne les addictions pour se reconstruire avec les autres, renouer des liens. Une thérapie de groupe où le collectif est primordial. Alors oui, on a déjà vu ce sujet au cinéma, mais cette fois sans pathos, de façon naturaliste. On sent que Fabienne Godet connaît très bien son sujet. On évite les écueils avec une grande rigueur. Au centre, une sacrée comédienne qui a d'ailleurs coécrit le film. Elle s'appelle Julie Moulier. Laurent, vous n'êtes pas d'accord avec moi?
J'ai un peu des réserves, si vous voulez, sur la façon dont Fabienne Godet, qui a toujours travaillé et le documentaire et la fiction, hein, qui a une œuvre double. Bon, ça, c'est vraiment alors tout à fait important et bien qu'elle mène les deux de front. Là, elle essaye de les rassembler dans un seul propos, tant et si bien d'ailleurs que le psy, l'un des héros ou des figures principales du film, est un vrai psy. Bon, ouais. Et en face de lui, il y a des acteurs qui jouent des situations, qui jouent un scénario dont je trouve, moi qui finis par être un peu forcé, parce que sans révéler la fin, mais il y a comme ça une couche de plus dans le pathos qui vient se surajouter.
Ouais, enfin, comme c'est sobre par rapport à la dureté du sujet, Laurent.
Oui, mais quand même, il y a une explication qui, moi, bon, me pose un peu de problème sur la lourdeur du propos.
Moi, elle m'explique beaucoup le personnage.
Bon, c'est vrai, il y a une façon d'expliquer. Ouais. Bref, ce qui me gêne, voilà, c'est que à force de faire de la fiction et de la réalité, on ne sait plus trop où on en est. En tous les cas, en tant que moi comme spectateur, je ne sais plus trop où j'en suis.
Bête blonde de Maxime Matray et Alexia Walter. Ils viennent tous les deux des arts plastiques. Qu'est-ce que c'est que ce film? Fabien, éphémère vedette d'un sitcom des années 90, perd régulièrement la boule et la mémoire depuis la disparition de Corinne, sa partenaire à l'écran, qui l'aimait tant. Plus rien ne l'étonne, pas même sa rencontre avec Yoni, un jeune garçon plein de larmes qui trimballe dans un sac la tête de son amant, un film comme une utopie poétique.
Ouais, mais vous avez tout dit, c'est-à-dire à la fois les charmes indiscutables et puis les limites, quoi, parce qu'à force de faire de l'absurde et du trash, du second degré, tout est second degré, tout est saugrenu, tout est décalé. Bon, ben, au bout d'un moment, on peut imaginer perdre un tout petit peu son spectateur en route qui se lasse de ses facilités.
Ça s'appelle Bête blonde. Oui. Exfiltré, premier long métrage d'Emmanuel Hamon et tentative de fiction, c'est courageux, sur le terrorisme inspiré d'une histoire vraie, une femme récemment convertie et son jeune fils partent pour Raqqa en Syrie, découvrent l'enfer là-bas, tandis qu'à Paris, son mari, aide-soignant, Son patron chirurgien est le fils de celui-ci sur place. Il fait partie d'une ONG et flirte, on s'en doute, avec la DGSE. Tente de l'exfiltrer, de les exfiltrer. Le projet est ambitieux, je le disais, la course contre le temps et les terroristes assez haletante et bien menée, manquait, et c'est dommage, parce que le paysage est bien cerné entre agents, passeurs et résistants, fugitifs. Il manque un peu plus de fond, d'explications, même géopolitiques, c'eût été passionnant, parce que le sujet est très complexe, mais les acteurs là-dedans sont très bons. Il y a Swan Arlo, Finnegan Oldfield et Jessica Calvanda. Et vous, Laurent?
Et moi, pas vu.
Ah, pas vu, d'accord. Voilà. Et ben, écoutez, très bien. Comme ça, ça vous évitera de dire du mal de ce film.
Oh, mais non, mais forcément. Enfin, franchement.
Cybèle, c'est un film réalisé par le couple franco-turc Guillaume Giovanetti et Chala Zengirje. Cybèle, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer Noire en Turquie. Cybèle est muette, mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région, et ça c'est vrai, et elle se siffle toujours. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasme. Cybèle va croiser un fugitif blessé, menaçant et vulnérable. Un portrait de femme un peu chargée, sans les subtilités par exemple d'un Mustang, plus démonstratif aussi.
Ah oui, moi je verrais aussi plus âpre, hein, quand même, plus âpre, parce que ce qui se dit quand même sur cette société totalement archaïque, patriarcale,
oui, âpre, noir, et pas très léger, quoi.
Ah bah oui, mais c'est
enfin,
manifestement...
C'est manifestement
quand même le quotidien. Et moi je trouve quand même qu'il y a, un beau portrait de rapport complexe entre un père et sa fille. Le père, c'est le maire du village, en plus, donc il est très impliqué dans les choses, et cette façon d'avoir un rapport avec ses deux filles, d'ailleurs, qui est très complexe, parce qu'il est à la fois, il est partagé entre ses fonctions de mère, il doit régenter les choses, et puis ses fonctions paternelles, où il est proche en tous les cas de ses, évidemment, de ses deux filles, et qui ne font pas les choses forcément qui lui plaisent. C'est un beau portrait de jeune fille avec un éveil des sens et de la sensualité formidable.
Avec une super actrice, il faut dire, Damla Sonmez.
On l'a pas dit, vous avez raison de le souligner.
Magnifique.
Oui, vraiment.
Et très forte actrice. Oui. Funan, premier film d'animation de Denis Do. 1975, la survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne durant la révolution Khmer Rouge pour retrouver son fils de 4 ans arraché au sien par le régime. C'est inspiré de la propre histoire de Denis Do. C'est un hommage à sa mère, à ses sacrifices et à ses déchirures. C'est un très beau film.
Très beau film. Ce fut le cristal du meilleur long métrage au Festival d'Annecy, prestigieux auquel nous allons. Annecy 2018, hein, c'est vraiment la mecque du court métrage. Et quand un film est récompensé à Annecy, il est effectivement souvent très très beau. C'est de l'animation en 2D et avec une ligne claire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un dessin que certains pourraient trouver peut-être trop sage. C'est pas mon cas du tout. Et on est un peu dans la lignée de ce que peut faire Ritipan sur à la fois le travail de mémoire et puis sur la résilience nécessaire des personnages. C'est un très très beau propos et c'est aussi un très très beau film esthétiquement.
Finalement, il y a pas mal de beaux films cette semaine.
Mais évidemment, on est tout à fait gâtés, tout va bien.
La meilleure façon de marcher en reprise, quel film?
Ah oui.
Claude Miller.
1975, Patrick Devers, Patrick Bouchité et Christine Pascal. Le premier film de Miller, scénario Luc Béraud, Claude Miller. Ça a été le début d'une belle belle carrière cinématographique. Allez revoir ou voir ce film, La meilleure façon de marcher.
Il nous reste une petite minute 30 pour évoquer déjà quand ce festival, quand les rues s'enflamment, Laurent.
Beau titre. Pour un festival, comme son nom l'indique, à Paris, sur 4 cinémas parisiens, le Balzac, notamment, le Christine, le Max Linder et le Studio 28, j'ai tous cité, du 11 au 18 mars, 40 longs métrages, 2 compétitions, des avant-premières et même un ciné-concert. On parlera russe toute cette semaine à Paris. C'est très bien.
Et on va terminer, mais en fait on a un petit peu de temps, on va terminer par les cadeaux pour nos invités. Alors
pour j'ai trois films, trois ressorties en DVD Blu-ray aussi, qu'on a souhaité mettre en avant, et on les recommande aussi évidemment chaudement à nos auditeurs. Pour vous, Anne Ray, L'Homme de Berlin, c'est un film de Carol Reed avec James Mason, 1953, c'est édité par Tamasa, il y a un superbe livret explicatif de Charlotte Garçon. C'est un film, je crois, dont l'esthétique va vous plaire, parce que c'est un portrait de Berlin, vous savez, cette ville si qui est très 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 beau, très poignant, et évidemment le magnifique James Mason au centre dans un rôle d'une ambiguïté totale, comme d'habitude avec James Mason, évidemment. Ouais. Pour vous, Peter Delgui, ça sera Police sur la ville de Don Siegel avec Henry Fonda, hein, et Richard Widmark, pas mal, hein, quand même. Là, c'est plus on quitte Berlin et on est sur New York. Le DVD est édité par Universal. C'est aussi Universal qui édite spécialement pour pour vous, Nicolas Jean-Jacques, ce film, un hold-up extraordinaire d'un réalisé par Ronald Nim, et c'est avec Shirley MacLaine et Michael Caine. C'est pour ça que je...
On a très peu de temps pour dire merci à tout le monde, à dire que McQueen, le film sort mercredi.
Allez le voir,
prochain.
S'il vous plaît.
La semaine prochaine, nous serons en direct du Salon du Livre et
venez
en public.
Nous voir.
Quatre invités, quatre aventuriers de l'édition cinéma. Merci beaucoup. Merci. Générique à tous les trois, avec tous les trois. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hilla.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Nicolas Jean-Jacques, j'y étais.
Et moi, Peter Etegui, j'y étais.
Et moi, Anne Rey, j'y étais.